Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Alors ça y est, le chocolat est bientôt totalement englouti. Les boules et guirlandes ont retrouvé leur place au grenier. Et les étoiles de Noël commencent à perdre leurs feuilles. C'est donc le moment parfait que les jardinières reprennent du service. Et elle est en super forme. Elle a d'ailleurs pris des forces pour cette rentrée. On accueille notre deuxième jardinière. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie. Bonne année à vous, bonne année à tous. Et merci d'être avec nous pour parler jardinage de si bon matin. Alors que le jour n'est même pas encore levé. Et on ne pourrait rien faire sans notre professionnel du jardin qui s'est levé, lui, Fabrice Rondet, notre paysagiste à Porrentruy. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors nous sommes le 12 janvier 2019, première émission de l'année. Il fait froid, le jardin est au repos, mais rien ne nous empêche de découvrir quelques petits trucs et astuces pour que tout se passe pour le mieux dans nos espaces verts et aussi pour nos plantes intérieures. Hein. Comment protéger nos dernières plantes qui se trouvent encore à l'extérieur? Nos plantes intérieures souffrent-elles du froid? Eh bien, on fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Fabrice Rondet.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant et en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Fabrice vous répondra donc personnellement et en détail. Sinon, vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout au 939. Il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Mais je crois qu'on a tout dit, les jardinières, première de l'année, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et on commence avec une question de Laurence qui nous a écrit concernant son anthurium ou anthurium, hein, selon les... parce que hum ou hum. Eh bien, cet anthurium, justement, était magnifique avec ses feuilles vertes et brillantes. Malheureusement, petit à petit, ses feuilles deviennent jaunes, des taches brunes apparaissent et les bords deviennent secs. Alors Fabrice, comment sauver cette plante selon vous?
Alors, c'est probablement dû uniquement à un petit problème récurrent qu'on a en hiver, c'est qu'on a un peu moins d'ensoleillement, les degrés dans les pièces sont différents de ce qu'on a en été, on chauffe un petit peu plus, l'air ambiant est un peu plus sec, donc on a tendance à avoir un arrosage aussi à adapter par rapport à cette saison, donc il faudrait peut-être juste un peu moins mouiller, je pense, et puis par contre, vaporiser un petit peu le feuillage, ça aura pour incidence de limiter le dessèchement des feuilles, et puis après en baissant peut-être un petit peu l'arrosage au niveau de la motte, on ne devrait plus avoir le feuillage qui jaunit. Après, en plaçant peut-être la plante un petit peu plus vers une source de lumière, on devrait avoir un petit peu plus de luminosité au niveau de cette plante, donc aussi favoriser un feuillage un peu plus vert. Ça devrait se résoudre un petit peu simplement comme ça.
Et justement, j'aimerais rebondir sur le fait de vaporiser. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé pour toutes les sortes de plantes, notamment peut-être les orchidées, plantes intérieures? Qu'est-ce que ça leur apporte en plus d'être vaporisé et à quelle fréquence?
Ben, ça dépend de l'air ambiant qu'on a dans nos pièces. En montant la température forcément de nos appartements, de nos logements, on va avoir une hygrométrie qui va baisser. Et du fait, il faudrait compenser ça juste par une vaporisation une fois au moins par jour, voire deux fois par jour. Et effectivement, toutes nos plantes ont besoin d'un petit peu plus d'humidité dans l'air qui en été, naturellement, même s'il fait plus chaud, est un petit peu plus élevé. Donc c'est juste ça qu'il faut contrebalancer en fait.
Vous avez parlé d'orchidées, Stéphanie, eh bien, c'est le sujet de la prochaine question. Marion a une orchidée depuis plusieurs années qui a perdu ses fleurs et en ce moment, elle fait de nouvelles pousses de feuilles. Elle se demande donc si ces nouvelles feuilles vont donner des nouvelles fleurs ou pas.
Alors, si la plante réagit en faisant une nouvelle foliaison, effectivement, ça veut dire que la plante a suffisamment d'énergie pour redémarrer une nouvelle croissance de rang floral pour qu'il va redonner normalement à des nouvelles fleurs. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est remettre un petit peu peut-être d'engrais avec l'eau d'arrosage pour lui donner un petit peu plus de vitalité. On va peut-être pas l'arroser, l'engraisser assez tôt comme on le ferait en pleine saison, mais au moins une fois tous les 15 jours ou tous les mois pour exciter un petit peu la végétation pour qu'elle puisse former une rampe florale pour après arriver à la floraison.
Et quand on voit qu'une feuille commence à pousser sur une orchidée, généralement elle pousse un peu en haut. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se développe pour le mieux? Est-ce qu'il y a des nouvelles tiges qui vont pousser? Est-ce qu'il faudrait couper quelque chose?
Alors ça dépend, parce qu'on a des feuilles qui peuvent se développer sur la base de la plante, mais des fois on peut voir aussi que quelques feuilles se forment à 30 cm en dessus de ce niveau-là. Chez moi, j'ai une petite plante qui fait une rosette de feuilles à peu près 30-40 cm de la souche. Et puis après ça, on peut, une fois qu'elle a fait 3-4 feuilles, puis qu'elle a fait 3-4 racines à ce niveau-là, on peut couper ça et redémarrer une nouvelle plante. Donc c'est ça qu'on peut observer aussi. Mais c'est assez rare, je dois dire. Ça ne se voit pas tellement souvent. Ça dépend en fait les conditions aussi dans lesquelles elle se développe dans notre appartement. Moi, j'ai vu ça qu'une fois chez moi. Autrement, elle se développe tout à fait normalement sans cette partie supérieure.
Et on va parler de houx, Fabrice, avec André, qui justement a un houx dans son jardin. Alors, il nous précise qu'il n'a pas de baies rouges. Il est très, très vieux, sûrement plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, ses feuilles jaunissent et tombent en grand nombre. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y a un remède? Parce qu'avant, il n'avait jamais perdu ses feuilles. Puis là, cette année, eh bien, ce vieux houx commence à perdre ses précieuses feuilles. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors déjà, par rapport aux baies, donc les houx, il y a plusieurs variétés, puis selon les variétés, on peut avoir des fructifications plus ou moins importantes par rapport aussi à des plants mâles, des plants femelles. Maintenant, par rapport à ça, on a aussi ce jaunissement chez lui qui est présent cette année d'une façon plus abondante, qui peut être peut-être aussi une manifestation due à l'été passé qui était un peu particulier. Ça peut être aussi un problème au niveau du système racinaire de la plante. Je pense pas que ce soit une maladie ou un parasite au niveau du feuillage, parce que à cette période de l'année, les choses sont plutôt en dormance, donc on devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Moi, je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de toute façon laisser passer peut-être un petit peu l'hiver. On n'a pas tellement de possibilités de pouvoir réagir par des traitements ou des choses comme ça. Il fait trop froid. Donc, faire passer de toute façon un professionnel, qu'on puisse constater peut-être déjà pour confirmer un ou deux symptômes que maintenant on ne peut pas se rendre compte à l'antenne. Mais du visuel, on peut peut-être mettre le doigt sur quelque chose peut-être qui aurait échappé à cette personne dans sa description pour nous la retransmettre. Et puis autrement, après, d'avoir une réaction adéquate, je pense, à partir de mars, avril, par rapport à ce qu'on observerait.
On passe à une question un peu plus exotique qui nous vient de Justine de Kourou. Elle nous dit « J'ai un ananas dont les bouts des feuilles deviennent secs. Je pensais que l'air était trop sec chez moi, donc je le vaporisais et l'humidifiais avec de l'eau. Mais rien n'y fait. Qu'est-ce que je peux faire ?»
Alors là, de nouveau, c'est pareil, sans voir, c'est un petit peu compliqué. Déjà, je pense que si elle parle de cet ananas, je pense que c'est une plante qui a déjà pris racine. Si cette plante n'a pas encore pris racine, ça peut prendre passablement de temps à ce que la racine se développe. Si elle vient de faire la mise en place de cette plantule pour que l'enracinement se mette en place. Donc le souci qu'on peut avoir maintenant, c'est qu'un excès d'arrosage peut provoquer un pourrissement. Donc ce qu'il faudrait vérifier justement, c'est qu'elle n'arrose pas trop, qu'on n'ait pas trop d'humidité au niveau de la partie basse de la plante, au niveau du collet, pour qu'il n'y ait pas... Si ce pourrissement est à ce niveau-là, ça veut dire que les feuilles vont tout de suite réagir en jaunissant ou en pourrissant directement. Donc contrôler, puis baisser peut-être un petit peu l'arrosage.
Donc c'est compliqué à faire pousser un ananas chez nous, ou il faut quand même être vigilant à beaucoup de choses?
Oui, c'est pas évident, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et puis autrement, la méthode elle est assez simple. Il suffit de prendre juste les premiers centimètres du sommet de l'ananas avec les feuilles. Il faut le mettre dans un terreau qui reste humide, même pas détrempé, avec un terreau dans sa partie basse du pot qui soit drainé. Et puis ce qu'on peut faire, c'est faire une petite structure métallique en dessus des parties feuillues, pour recouvrir ça d'un plastique. Et puis après, on laisse ça quelques semaines, et après, on peut avoir un système racinaire qui se développe. Mais c'est pas forcément facile quand même.
Ouais, mais il faut pas forcément le mettre dans une serre.
Non, on fait avec le système, ça fait comme une mini-serre, en fait, cette structure métallique qu'on met par-dessus le feuillage pour que le plastique soit pas en contact direct avec les feuilles. C'est juste un support, en fait. Et puis ça va se manifester comme une mini-serre.
Merci beaucoup Fabrice Rondet, je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et vous qui nous écoutez, alors oui, il est tôt, mais je suis sûre que vous avez plein de questions jardinage. C'est la rentrée des jardinières, et Sophie, il y a plusieurs moyens pour les gens qui nous écoutent de poser leurs questions.
Les moyens, donc, ils n'ont pas changé. Il y a le standard téléphonique. Vous nous appelez au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et comme ça, vous pourrez discuter directement avec Fabrice de votre problème. Et puis, sinon, vous pouvez aussi nous contacter par écrit, soit par formulaire que vous trouvez sur nos sites internet, ou alors vous nous envoyez un SMS au 939. Vous écrivez le mot « jardin », vous laissez un espace et puis, eh ben, vous tapez votre question.
7h, 8h, les jardinières.
On a Marc de Mora qui lui aime les pommes de terre. Il nous a écrit « J'aimerais planter des pommes de terre, seulement je ne sais pas quelle variété choisir. Quelles sont les variétés les plus faciles à cultiver en Suisse pour une culture privée ?»
Alors, je vais répondre un petit peu simplement. Si on peut faire une comparaison avec nos pommes dans nos vergers, les pommes, on va les avoir pour différentes choses. Par exemple, des pommes de cuisson, des pommes de garde, des pommes à consommer tout de suite. Et puis les pommes de terre, on a quelque part un petit peu la même chose quand même qui va être mise en place. Si on fait des pommes purées ou des pommes vapeur, on aura peut-être des variétés un peu différentes qui se prêtent mieux. Donc ce qu'il faudrait peut-être savoir pour cette personne, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire exactement de ces pommes de terre. Donc il pourra déjà utiliser peut-être plusieurs variétés. Donc il n'est pas obligé de se cantonner à une, parce que je pense que la culture est aussi facile pour l'une que pour l'autre. Donc ça ne présente pas de problème, ça. Mais après, justement, par rapport à ça, il va chez son vendeur, il pourra regarder, puis on a plusieurs variétés de... qui sont offertes. Donc après, il va choisir celle qui lui convient pour ça, ou utiliser même directement plusieurs variétés pour avoir des choses un petit peu différentes selon ce qu'il va préparer comme repas.
Et si on veut des pommes de terre que pour la raclette, on peut ?
Ben, il faudra prendre des variétés qui sont, voilà, qui sont plus petites, ou alors qu'il fasse un tri quand il va s'y prendre qu'une variété, qu'il fasse un tri, et puis les plus petites, les mettre de côté pour ça, et puis prendre des plus grandes pour, après, pour faire de la purée ou des choses comme ça.
Tenez fin tout ça. Bon, on va passer aux fougères d'intérieur, hein, Fabrice. C'est moins appétissant, mais joli, hein, quand même. C'est une auditrice qui nous écrit qu'elle aimerait justement se procurer des fougères d'intérieur. Alors, par contre, elle demande comment faut-il s'en occuper de ces plantes qui poussent normalement en forêt. Alors, on imagine qu'il y a plusieurs variétés également. À quelle fréquence les arroser et à quel endroit les placer idéalement?
Alors, cette personne a raison sur le fait que ces fougères qui poussent en forêt, mais pas dans notre région. Donc, ça provient quand même d'autres pays. Donc, par rapport à ça, moi, je pense qu'il faudrait qu'elle se dirige vers quelqu'un de spécialisé pour plantes d'intérieur. N'importe quel revendeur autour de chez nous, il y en a quand même plusieurs. Et puis, faire la différence entre une fougère d'extérieur sous notre latitude et puis une fougère, justement, d'intérieur qui demandera d'autres soins et puis d'autres températures pour... l'hiver. Donc les nôtres ici chez nous, les indigènes, ont besoin de ce repos hivernal, tandis qu'une fougère d'intérieur, elle va passer tous les mois de l'année avec le même développement. Donc en allant chez un fleuriste ou chez un revendeur, un grossiste, il va pouvoir lui proposer des variétés en tant que plante d'intérieur. Donc après, par rapport à ce qu'elle va acheter, ben, il y aura indiqué sur la petite étiquette la fréquence des arrosages, la vaporisation, les températures, l'exposition aussi dans une pièce. Et puis après, c'est une plante qui est assez facile à gérer, ça.
Donc on ne peut pas aller prendre sa fougère en forêt et puis la replanter chez soi. C'est pas très conseillé.
Non, ça ne fonctionnerait pas très bien, je pense.
Merci Fabrice. Fabrice Rondet, vous êtes donc paysagiste à Porrentruy. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et il y a plusieurs moyens pour vous qui nous écoutez de poser vos questions jardinage. Et oui, il est 7h26 bientôt, mais je suis sûre que vous avez quand même quelques petites idées. Questions jardin, qu'est-ce qui vous turlupine? Sophie, il y a plusieurs moyens pour les auditeurs de poser leurs questions.
Oui, alors il y en a 3 des moyens. Il y a le téléphone, hein, vous pouvez toujours nous appeler au 0900 70 20 20 au prix de 36 centimes la minute. Et comme ça, vous pourrez discuter directement avec notre professionnel du jour, donc Fabrice. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un SMS, vous écrivez jardin, vous laissez un espace et vous écrivez votre question. Vous envoyez le tout au 939. Et sinon, vous pouvez toujours trouver des formulaires sur nos sites internet sous l'onglet émission. Question aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
De retour dans les jardinières, jusqu'à 8h, on répond à toutes vos questions jardinage, pour la première fois de l'année, hein. Ben oui, nous sommes le 12 janvier 2019, et pour ce faire, nous sommes accompagnés de notre professionnel du jardin, Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, Les Jardinières, c'est votre émission. Quelle que soit votre question, vous pouvez la poser au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Fabrice Rondet. On lit également tous vos SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin, si vous laissez un espace, et vous tapez votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et puis sur notre site, hein, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission. Question aux jardinières. Dans les deux cas de l'option écrite, hein, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Et vous pouvez bien sûr faire donc comme cet auditeur qui vient de nous écrire un SMS. Il nous dit « J'ai un rosier en pot que j'ai rentré pour l'hiver. La terre est mouillée, mais il a toutes les feuilles qui sèchent et tombent. Et il y a aussi plein de petits moucherons autour. Fabrice Rondet, est-ce que vous avez une petite piste hein, à suivre pour aider cet auditeur avec son rosier ?»
Alors oui, je pense déjà pour commencer que s'il parle de feuilles qui tombent, on doit être en présence d'un rosier plutôt d'intérieur, parce qu'autrement les rosiers d'extérieur maintenant ils ont perdu leurs feuilles depuis pas mal de temps, et puis les petits rosiers peut-être d'intérieur seraient peut-être plus susceptibles selon certaines variétés de passer avec un feuillage toute la saison. Donc autrement, c'est normal que les feuilles soient tombées. Maintenant, ce qui n'est pas très bon signe aussi, c'est quand il parle, s'il a rentré cette plante en pot. Donc ça dépend quand il l'a rentré, si c'est par exemple ces derniers jours avec ce qui est tombé en neige ou... on devrait être en présence d'une terre mouillée, ça c'est normal. Mais s'il l'a rentré maintenant il y a plusieurs semaines, puis que cette terre est toujours mouillée, c'est qu'on a un souci de drainage, d'évacuation de l'eau. On a peut-être un pot qui n'est pas perforé, ou c'est que l'eau ne s'évacue pas. Donc ça, il faudrait y remédier très rapidement. Il faudrait contrôler la base pour mettre aussi une petite couche drainante à la base du pot. Donc ça faudrait faire attention également. Donc ça, on solutionnerait ce côté d'excès d'eau, et puis après laisser ça sécher gentiment cette motte, et puis faire pour qu'elle réussisse entre deux arrosages. Maintenant, pour la présence des moucherons, donc on a plusieurs possibilités pour travailler là-dessus. Donc on est en présence là déjà d'une ponte qui a éclos parce que les conditions sont bonnes, on a un petit peu plus de chaleur, donc il y avait des œufs qui étaient dans cette terre. Et ces œufs ont éclos ces derniers jours parce que s'il l'a rentré, la température était un peu meilleure. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ça? On peut par exemple mettre en place des petites plaques qui sont jaunes, qui sont engluées, ou c'est que les moucherons se colleront dessus. Donc ça, c'est la première méthode la plus respectueuse. Après, on peut utiliser aussi, s'il le fallait, des produits peut-être qui ne sont pas nocifs pour enfin... éventuellement, dernier recours, mais si on pouvait éviter, ce serait bien d'utiliser des insecticides. Donc, je pense qu'en travaillant déjà avec ces trois petites façons, donc assainir le pot, laisser essuyer ce pot, et puis ensuite mettre ces plaques jaunes, on peut arriver à corriger pas mal les choses.
Super, merci beaucoup Fabrice Rondet. Je me permets de rebondir sur le fait de rentrer à l'intérieur un rosier. Ça se fait systématiquement ou c'est certaines variétés seulement qu'on peut rentrer? Parce que c'est vrai que généralement, ben, oui, j'ai l'impression que les rosiers restaient dehors.
Alors oui, on a des rosiers d'intérieur, on a des rosiers d'extérieur, on a des petites cultures qui se font sur des variétés bien précises qu'on pourrait avoir dedans. Mais effectivement, on a quand même des repos hivernales pour la plupart de ces variétés qui se font. Et puis on doit avoir normalement quelque chose qui se rentre. Mais on doit tenir compte de la saison, anticiper un petit peu ça pour que nos rosiers redémarrent au printemps. Normalement, tous nos rosiers rentrent en repos hivernal, perdent leurs feuilles pour se réveiller après au printemps. Donc ceux qui sont en pot, on les mettra dans des pièces à l'abri du gel. Ou dehors, si on est assez bas en altitude, à l'abri des courants très froids, on peut protéger le pot, on peut protéger la partie supérieure, et puis après les remettre à leur endroit définitif une fois que les jours sont un peu plus chauds.
Une question qui est de circonstance, hein, avec toute cette neige qui est tombée ces derniers jours. C'est Madeleine qui nous dit que ses plantes d'extérieur sont recouvertes de neige. Et elle demande si vous recommanderiez d'enlever la couche qui les recouvre afin qu'elles puissent respirer, ou tout simplement laisser la neige comme ça.
Alors, On a deux catégories de plantes. On a les plantes qui perdent leurs feuilles, donc les caduques, et puis on a les plantes qui vont garder leurs feuilles, les persistantes. Donc là-bas dedans, on peut mettre en place, par exemple, les lauriers, on peut mettre en place les conifères, on peut mettre en place les bambous dans cette catégorie. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être secouer ces plantes pour éviter des casses au niveau des branches, parce qu'effectivement, on a des neiges, selon l'altitude où c'est qu'on se trouve, qui peuvent être plus ou moins importantes, les précipitations neigeuses, mais aussi avec des neiges selon l'altitude qui peuvent être plus ou moins lourdes. Alors si on est en présence d'une neige qui est assez légère, ben, on ne risque pas grand-chose, mais si on a des neiges lourdes, si on est un petit peu plus bas en altitude, on peut avoir sur des jeunes plantes qui se chargent beaucoup de la casse. Donc effectivement, pour ces plantes qui sont persistantes, dans ces trois catégories qu'on vient de citer pour faire vite, ce serait bien peut-être de les secouer avec précaution, parce qu'on peut avoir le gel aussi qui fait que la neige se rattache, s'agrippe comme il faut après les petites branches, et puis en secouant trop violemment, on pourrait créer aussi de la casse. Donc secouer un petit peu après chaque bonne précipitation, ça peut être pas mal.
Merci Fabrice. On nous écoute du côté de la vallée de la Brévine. C'est Chantal qui vient tout juste de nous écrire. Ces amaryllis sont fanées et elle se demande si on peut les faire refleurir cet automne. Si oui, comment faire ?
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est une fois que les fleurs et les feuilles ont fané, ce serait espacer fortement les arrosages, gentiment, après avoir coupé les feuilles et les hampes florales, et puis mettre la plante en place dans un garage, dans un cellier, un petit endroit comme ça, plus frais, où c'est qu'on a un peu moins de lumière pour qu'on ait un repos végétatif qui se mette en place pour les remettre en place sur l'automne prochain.
Donc tout simplement, puis là, ouais. pour Chantal, donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Non, on espace bien les arrosages, et puis pour retenir juste un tout petit peu la terre humide entre deux arrosages, mais vraiment un tout petit peu, il ne faut pas que l'eau s'écoule dans l'assiette qu'on aurait dessous, et puis après, on fait peut-être un petit arrosage comme ça tous les deux semaines, et puis après, ça devrait redémarrer assez facilement au printemps, à l'automne prochain.
On a également Solange qui nous a écrit « Les feuilles de mon étoile de Noël commencent déjà à noircir. J'avais dans l'idée de la garder quelques mois au moins. Est-ce que vous avez une astuce pour les faire vivre plus longtemps ?»
Il n'y a pas vraiment d'astuce. Non, c'est toujours un équilibre à créer entre la lumière, entre l'humidité au niveau de la motte et puis l'air ambiant. Donc, si on contrôle bien ça comme il faut, on peut éviter ce qu'il faudrait. Contrôler, c'est peut-être qu'on ne soit pas en présence d'une maladie parce qu'il y a trop d'humidité ou pas assez. Donc, vérifier peut-être avec cette plante qu'on a en visuel, avec peut-être, ça peut être, je pense, une maladie qu'on appelle l'anthracnose. Aller voir sur Internet, comparer, puis après, on peut réagir par rapport à ça. Donc, le mieux, c'est qu'elle tape sur un moteur de recherche étoile de Noël avec les feuilles qui noircissent. Puis elle va tomber sur des symptômes avec les images qui pourraient la conduire directement à ce qu'il y a là, parce qu'on peut avoir tout simplement une réaction comme ça. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'optimiser en fait ces trois conditions.
Il y a des gens qui arrivent à garder leurs étoiles de Noël toute l'année.
Il y a toujours des gens qui ont la main un peu plus verte que d'autres, qui font un peu. Ouais, voilà. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Et puis, certaines personnes arrivent à faire des petits miracles des fois avec les plantes, mais en général, on les rachète volontiers à chaque saison de Noël.
Effectivement, merci beaucoup Fabrice Rondet. On va faire une petite pause musicale, la dernière. Donc, vous qui nous écoutez, c'est votre dernière chance de poser vos questions. Sophie, il y a plusieurs moyens.
Oui, jusqu'à 8h, vous pouvez soit nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez aussi toujours nous envoyer un SMS au 939. Vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous tapez votre question. Ou encore, vous pouvez trouver le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Et pour cette dernière partie des jardinières, la prochaine question nous vient d'Annie qui a plusieurs avocatiers qu'elle fait pousser chez elle et qui font environ 50 cm de haut. Les feuilles sont abîmées et desséchées et elle les enlève petit à petit. Il y a même des taches brunes sur les nouvelles feuilles. Fabrice, est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut être? Et s'il y a un produit peut-être recommandé ou une façon de prendre soin de ces avocatiers?
Alors là,
J'allume votre micro,
voilà,
désolé.
Pas de souci. Donc là, on est de nouveau en présence de petits contrôles, comme on a vu avant, au niveau de l'arrosage, au niveau de l'air ambiant, au niveau de l'emplacement par rapport à l'hiver. Donc après, on a une maladie où c'est que les avocats sont assez sensibles, nous posent vite des petits problèmes. C'est de nouveau cette maladie qu'on a citée avant, c'est l'anthracnose. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de nouveau par un support visuel au niveau d'un moteur de recherche, regarder puis comparer, voir si c'est bien de ça qu'il s'agit. Et si c'est bien de ça qu'il s'agit, après, elle pourrait se diriger chez un revendeur à côté de chez elle pour corriger le tir assez facilement peut-être. Donc dans un premier temps, un arrosage à contrôler, donc un petit peu plus ou un petit peu moins, l'air ambiant, vaporiser, et puis après faire cette comparaison par rapport à ses tâches sur cette maladie qu'est l'anthracnose, et puis après réagir en fonction.
Merci Fabrice. Si vous aussi, comme Annie, vous voulez poser une question, on vous le rappelle, c'est tout simple, par SMS, en envoyant le mot jardin, un espace, et votre question, le tout au 939, ou alors vous nous appelez, vous avez encore quelques minutes pour le faire, pour parler directement avec Fabrice, 0 900 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Et là, on va parler de la question d'Eddy, Fabrice, qui a un petit terrain, hein, 300 mètres carrés, c'est quand même pas négligeable, et il aimerait le transformer en verger. Alors, sa question, c'est comment il peut s'y prendre, tout simplement. Quels arbres planter? Faut-il mélanger les fruitiers? Et à quelle distance les éloigner? Et puis surtout, est-ce que c'est trop tard ou trop tôt, du coup, pour le faire? Évidemment, maintenant, on est un peu en période enneigée. Est-ce que vous avez quelques astuces pour aider Eddy?
Alors oui, il a beaucoup de possibilités devant lui, cette personne. Donc 300 mètres carrés, il y a déjà de quoi s'amuser pour faire une plantation d'un petit verger. Donc s'il veut, moi je pense que l'idéal pour lui, apparemment ça a l'air d'être une personne qui apprécie les fruits, qui est peut-être un peu gourmand. Donc l'idéal, ce serait peut-être de se diriger vers des variétés naines. Donc on peut les diriger avec différentes formes, soit les palissés, soit sous forme de petits arbres, de la pyramide, du fuseau, des choses comme ça. Donc par rapport à ça, après, ce qu'il devrait faire, c'est faire un choix au niveau des fruits qu'il souhaite avoir pour selon ce qu'il veut en faire. Et après, on peut travailler aussi bien sous tous les types de prunes, donc c'est-à-dire mirabelles, damascènes, les reines Claude, les prunes, les pruneaux, tout ce genre de choses-là. On a les poires, on a les pommes, les coings, on a aussi les cerises qu'on peut diriger sous ces formes-là. Donc, tout est possible. Et puis, on va avoir après, avec la variété naine, aussi des espacements qui sont considérablement réduits. Donc sur 300 mètres carrés, il pourra mettre pas mal de petits arbres dans toutes ces espèces. Et après, il peut jouer avec les premières variétés qui vont mettre du fruit sur route pour aller jusqu'à des récoltes qui vont être sur octobre. Donc c'est infini les choix qu'il a. Donc je pense qu'il faut qu'il prenne contact avec un professionnel,
voilà.
Et
puis
qui pourra le renseigner sur les variétés dans les pommes qui peuvent aller de août jusqu'à octobre, avec les pruneaux c'est pareil, étalonner un petit peu peut-être les variétés histoire qu'il puisse avoir du frais, puis pas que tout vienne en même temps, histoire de jouer un maximum avec ça,
et puis de se faire plaisir
parce que les choix sont infinis.
Merci Fabrice, et nous avons Sophie, quelqu'un au téléphone avec vous.
Oui, on a Nelly de Failly qui a une question à vous poser, Fabrice.
C'est un peu mieux.
Nelly, bonjour.
Bonjour Nelly.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'aurais une question pour vous, c'est possible?
Oui, alors vous avez quelques minutes, on vous écoute.
D'accord. Alors écoutez, moi j'ai une serre, ça fait 2 ans. Tout va bien, mais seulement cet hiver, j'ai plein de mousse dedans. Donc ma question est, j'aimerais savoir si je dois enlever cette mousse ou bien si je peux retourner la terre comme ça.
Alors l'idéal, ce serait peut-être d'enlever la mousse. Donc c'est bien de la mousse que vous avez dit, c'est pas des mouches, hein. C'est la mousse, j'ai bien compris.
Non, c'est de la mousse, oui.
Oui, de la mousse. Donc, je pense que vous avez, avec l'arrière-saison qu'on a eue, qui était assez, assez tempérée, avec un excès d'humidité, vous avez ces mousses qui se sont développées, ou bien c'est quelque chose qui était là déjà les années précédentes, puis qui s'installe de plus en plus?
Oui, c'est un peu ça, ça s'installe de plus en plus, oui.
Est-ce qu'elle est plutôt à l'envers, en nord-ouest, peut-être votre serre, ou bien elle est en plein sud?
Non, elle est nord-ouest,
oui. Nord-ouest, voilà. Bon, alors vous avez une exposition qui favorise un petit peu le développement de cette mousse. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est juste par un grattage mécanique, peut-être travailler sur l'enlèvement de cette mousse plutôt que d'utiliser des produits, tout simplement.
D'accord. Oui, d'accord, ok. Alors oui, c'était juste ce que je voulais savoir. Après, il faut que je retourne un peu la terre.
Oui, exactement, il faut l'aérer, la travailler, histoire qu'elle réussit bien, qu'elle sèche, et puis ça veut aller comme ça.
D'accord, ben, je vous remercie beaucoup.
Merci Nelly d'avoir téléphoné. On vous souhaite
merci beaucoup.
Excellente journée. Fabrice, à vous aussi, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Fabrice, il nous reste quelques petites secondes. Nous sommes le 12 janvier, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment au jardin? Alors on imagine que le repos est de mise, mais est-ce que vous avez une petite astuce?
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à tailler un petit peu certaines plantes, parce que la neige vient, repart. Donc on peut commencer de tailler gentiment les arbres fruitiers, les arbustes qui sont communs. Donc, on va encore laisser de côté les choses comme les petits fruits framboisiers, rosiers pour plus tard après les gels. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est comme Eddy, on peut commencer peut-être de réfléchir à son jardin, se projeter pour les prochaines semaines, prochains mois, pour le réaménager, peut-être enlever des choses, recommencer pour le remettre un petit peu au goût du jour, ou alors refaire de nouvelles plantations pour redémarrer quelque chose de neuf, pour se sentir un petit peu mieux la saison prochaine dans quelque chose de nouveau.
Le temps file, hein, Fabrice, le jour va bientôt se lever. Il est temps pour nous de boire notre première tasse de café et de vous remercier, Fabrice Rondet, d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs ce matin. On vous retrouve évidemment très bientôt dans Les Jardinières.
Alors c'est moi qui vous remercie, puis une bonne journée, bon week-end à vous aussi. Au revoir.
Les jardinières seront donc de retour samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ce matin, pas la peine d'attendre notre prochaine émission. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présent sur nos sites. Vos questions seront bien sûr traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, Les Jardinières.